Le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. C'est l'acte 4, le quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes et il est scruté avec une grande anxiété par les pouvoirs publics. Un dispositif exceptionnel est déployé, 89 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire. Déjà 121 personnes interpellées à Paris, 32 placées en garde à vue, des blindés dans la capitale. Nous irons prendre la température porte-maillot avec notre reporter sur place, Mathilde Dehimy.
Les forces de l'ordre ont mené une série d'arrestations préventives pour tenter de déminer le terrain.
Alors que 7 Gilets jaunes rencontraient le Premier ministre hier soir à Matignon, ils ont lancé un nouvel appel au calme et demandé aux manifestants de ne pas venir à Paris.
Alors que l'exécutif semble débordé de toutes parts, les maires s'inquiètent aussi en région.
Et font ce qu'ils peuvent pour apaiser les tensions, nous dira Stéphane Robert. La marche pour le climat est maintenue à Paris malgré les risques de sécurité. Et votre invitée Caroline Brouet nous parlera de l'urgence climatique.
Il ira sûrement marcher, en tout cas il a appelé dans Libération mardi les Gilets jaunes à rejoindre la marche pour le climat. Nous recevons le réalisateur et militant écologiste Cyril Dion.
Le Téléthon se poursuit jusqu'à demain avec 250 projets et 33 essais thérapeutiques en cours. Il a permis d'accélérer la recherche sur les maladies rares. L'acte 4 du mouvement des Gilets jaunes, c'est aujourd'hui. Sécurité maximale dans toute la France. Près de 90 000 policiers et gendarmes déployés au niveau national. Des camions blindés déployés également à Paris, la capitale qui se prépare au pire des scénarios avec des scènes peut-être encore plus violentes que la semaine dernière et ce malgré les nombreux appels au calme. Alors que porte-maillot à Paris, les Gilets jaunes commencent à se regrouper, Mathilde Dehimy.
On s'observe et on se jauge. Les barrages filtrants ont débuté, porte-maillot. Une quinzaine de gilets jaunes attendent depuis une heure sur l'un des côtés. D'autres ont même été déjà arrêtés. Personne n'accède à l'avenue de la Grande Armée. Et du coup, par grappe, il y a de petits groupes autour de nous qui hésitent. Des dizaines et des dizaines de personnes ont déjà tenté de contourner la porte-maillot pour se rapprocher de l'Arc de Triomphe, très protégé par des véhicules d'escadrons de gendarmerie. Ces gilets jaunes portaient pour certains un drapeau français, pour d'autres drapeau breton et bonnet rouge. Et hier soir et encore ce matin sur les réseaux sociaux, ces mêmes gilets jaunes se divisaient sur la marche à suivre. Celui qui a lancé l'idée même du mouvement, Éric Drouet, a appelé finalement à bloquer le périphérique porte-maillot. D'autres l'accusent d'avoir cédé aux policiers alors qu'une enquête est ouverte contre lui pour avoir appelé à rentrer dans l'Elysée. Le rendez-vous pour bloquer le périphérique est prévu à partir de 9h et on verra d'ici là quel choix la majorité des gilets jaunes ont fait, périphérique ou Champs-Élysées.
Merci Mathilde Dehimy avec Jérémy Thuil à la technique. L'Elysée et le ministère de l'Intérieur redoutent une nouvelle flambée de violence avec peut-être encore un cran supplémentaire dans la capitale. Un dispositif judiciaire et sécuritaire hors norme a été mise en place et des arrestations préventives ont déjà eu lieu ces dernières 24 heures concernant des activistes surveillés par les services de renseignement, Emmanuel Leclerc.
Cela ressemble à une sorte d'avertissement dans les milieux de l'ultra-droite et de l'extrême-gauche. Des activistes avec des enquêtes judiciaires en cours ont été interpellés et leur garde à vue va se poursuivre jusqu'à dimanche. Une trentaine au total, selon nos confrères du Parisien. Les enquêteurs de la PJ parisienne ont également réussi à remonter la piste de plusieurs faux gilets jaunes suspectés d'avoir participé à des saccages dans la capitale samedi dernier. Enfin, du côté des services de renseignement, les zadistes repérés à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure seront notamment dans les radars des services ce matin. L'objectif des forces de l'ordre étant de stopper les premiers casseurs avec une multiplication de contrôles, d'identité et de fouilles si nécessaire dans les gares, trains, bus, RER et métro. Rien que pour la capitale, ce sont près de 16 commissariats et 2 centres de la préfecture de police de Paris qui pourront accueillir des gardés à vue. Les tribunaux des départements voisins seront mis à contribution si cela s'avérait nécessaire, si le nombre d'interpellations devait dépasser de loin les 400 arrestations du week-end dernier.
Emmanuel Leclerc, alors qu'une centaine de gilets jaunes sont arrivés depuis 7h30 ce matin devant l'Arc de Triomphe à Paris, selon nos collègues de France Bleu Paris. 7 gilets jaunes étaient reçus à Matignon hier soir, appartenant au groupe des Gilets jaunes libres, c'est le nom qu'ils se sont eux-mêmes donné. Ils ont rencontré le Premier ministre pour lui faire part, les yeux dans les yeux, de leurs revendications. Ces gilets jaunes qui appellent à ne pas venir manifester dans la capitale, ils estiment avoir fait ce qu'ils pouvaient pour faire baisser la tension, Grégoire Lecalot.
Avant d'entrer à l'hôtel Matignon, Jacqueline Moureau, une des figures du mouvement, affirmait venir avec un drapeau blanc. Après 1h30 de discussion à 7 avec Édouard Philippe, elle estime au moins avoir pu dialoguer.
On a vraiment eu un débat, un constat, c'était très très intéressant, très constructif. On a dit tout ce que les gens nous ont dit, on a fait remonter l'information, on a parlé de tout. Maintenant, la balle est dans le camp de M. Macron.
Emmanuel Macron, c'est encore une fois vers le président de la République que se tournent les regards. Édouard Philippe a promis de transmettre sans délai à l'Élysée toutes les revendications présentées par les 7 gilets jaunes. Ils attendent maintenant que le président prenne la parole. La mine grave, Christophe Chalençon estime que l'enjeu est historique.
Notre travail est fait. La République est entre les mains de M. Macron. J'espère qu'il va parler au peuple de France comme un père, avec amour et respect, et qu'il prendra des décisions fortes qui feront que le peuple ne se retrouvera plus encore dans la rue après son discours.
Et les Gilets jaunes libres ont encore une fois appelé à ne pas venir manifester aujourd'hui à Paris.
Grégoire Le Callot.
Si à Paris le pouvoir exécutif s'inquiète, dans les campagnes également, les responsables politiques locaux se demandent quand et comment la situation pourrait revenir à la normale.
Les maires notamment sont très inquiets. Ils sont inquiets face à une possible nouvelle situation qui dégénérerait encore en province après l'incendie, notamment la semaine dernière, de la préfecture du Puy-en-Velay. Stéphane Robert.
Il n'y a pas qu'à Paris que l'installation dans le temps du mouvement des Gilets jaunes donne lieu à des dérives et des violences. Dans la Creuse également, la tendance est à la radicalisation. Michel Vernier est le maire de Guéret, le chef-lieu du département.
Moi, on m'a détruit la quasi-totalité de mes eurodateurs avec de la mousse expansée. Ils sont hors d'usage. On voit bien qu'il y a cette forme un peu qui se radicalise un petit peu.
Parce que la colère des Gilets jaunes, c'est surtout en dehors des villes qu'elle s'exprime, dans les campagnes. Vanick Berberian est le président de l'Association des maires ruraux de France.
Plus vous êtes en campagne, plus vous envoyez. Et plus vous rapprochez des villes, et moins vous envoyez.
Et tout a commencé, selon Vanick Berberian, il y a presque un an, avec la limitation à 80 km/h sur les routes.
L'erreur, c'est pas tant à 80 km/h, c'est de l'avoir imposé uniformément partout. On avait dit au Premier ministre, mais bon, pourquoi pas que sur certaines routes, en fonction de la configuration, il faille rouler à 80. Mais c'est pas depuis Paris avec la longue vue, ça doit se décider, c'est localement. Et c'est la configuration de la route qui doit déterminer la vitesse et pas une décision unilatérale, uniforme partout, quoi.
Le problème de cette colère aujourd'hui est qu'elle rejette toute médiation avec les responsables politiques. Michel Vernier.
Moi, j'ai vu en me rendant sur un lieu de rassemblement des gens me faire comprendre très nettement qu'ils ne souhaitaient pas ma présence. On n'a pas pu discuter, hein, puis je n'ai pas cherché d'ailleurs. Pas de politique, pas de syndicat, ça c'est clair.
L'urgence, selon les maires, est donc de rétablir le dialogue avec les Gilets jaunes.
Il est temps qu'ils aient des vrais interlocuteurs auprès des décideurs, sinon ça va devenir ingérable cette affaire-là.
Tout dépendra du degré de violence qui s'exprimera aujourd'hui à Paris et dans toutes les autres villes de France.
Stéphane Robert, et puis cet appel à ne pas utiliser la violence lors de ces manifestations, un appel lancé par des victimes du terrorisme hier. Plusieurs d'entre elles ont publié une tribune pour dénoncer ces affrontements qui risquent de diviser le pays. Georges Saline a perdu sa fille dans l'attentat du Bataclan. Il fait partie des signataires de cet appel.
Nous sommes tout simplement choqués, peut-être traumatisés par le spectacle de la violence, parce que évidemment ça ravive de très mauvais souvenirs pour nous. Nous sommes très inquiets par le spectacle d'un pays qui se déchire et qui semble incapable de trouver la voie de la raison et de trouver la voie d'une sortie de crise qui passerait par le dialogue. Et là, on voit que sur des questions sociales, dont on ne veut pas du tout nier l'importance, on n'y arrive pas et on a l'impression d'entrer dans une spirale dont on ne voit pas très bien comment on va en sortir. Donc voilà, on voulait lancer un appel à la raison.
Des propos cueillis par Yann Gallick. Alors que presque tous les responsables politiques appellent à ne pas mettre de l'huile sur le feu, une expression qui est revenue en boucle depuis lundi, le défenseur des droits a annoncé hier l'ouverture d'une enquête après la vague d'indignation suscitée par une vidéo montrant l'interpellation de près de 150 jeunes, en grande majorité des lycéens, aux abords d'un lycée de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. La vidéo diffusée sur Internet montre des dizaines d'adolescents à genoux, les mains sur la tête, entourés par des CRS, ou bien les mains entravées et aligné à genoux face à un mur. Les Gilets jaunes ne dissuadent pas les organisateurs de la marche pour le climat. Les appels à ne pas manifester à la mairie de Paris, Anne Hidalgo notamment hier, et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner n'ont pas dissuadé ces manifestants. Le trajet est maintenu, cette fois de Nation jusqu'à la place de la République, départ du cortège à 14h. Pauline Boyer y sera, les porte-parole d'Alternatiba, et pour elle le risque d'inaction face à l'urgence climatique est encore bien plus grave que celui de manifester.
Dans l'état actuel des négociations sur le climat, où on n'a pas du tout avancé depuis la COP21, on avance vers une trajectoire de 3 à 4 degrés à la fin du siècle. Et là, on peut pas annuler ces marches. Nous sommes en état d'urgence et donc c'est important qu'on soit le plus nombreux et nombreuses possible dans la rue pour faire entendre nos voix et pour justement montrer que dans le contexte actuel des mobilisations des Gilets jaunes, montrer que lutter contre le dérèglement climatique, c'est lutter pour construire une société qui est écologiquement soutenable, mais qui est juste socialement. Et ce mouvement-là, justement, pose la question de comment est-ce qu'on fait pour aller dans une transition juste. Le défi climatique, il doit être relevé en mettant en place des mesures écologiques, mais qui sont justes socialement. Et donc, ça pose vraiment cette question de comment on fait la transition. Et nous, en tout cas, quand on dit on veut changer le système et pas le climat, c'est parce que, justement, on n'oppose pas du tout l'écologie et le social. Et bien au contraire, on ne pourra pas gagner la bataille climatique sans mettre en place des mesures qui permettent eh bien à tout le monde de vivre dans des conditions dignes. Et on peut pas opposer la question des fins de mois à la question de la fin du monde. On doit penser ces deux problèmes ensemble à très court terme, à moyen terme et à long terme.
Pauline Boyer, porte-parole d'Alternatiba, répondait à Sébastien Brun pour France Culture. Une marche pour le climat est organisée aussi à Katowice en Pologne, où se tient la COP24 pour une semaine encore. Et le climat, il sera question aussi tout à l'heure avec votre invité Caroline Brouet, Cyril Dion, le co-réalisateur de Demain.
France Culture, 8h11, suite du journal. On part maintenant en Algérie, où les 7 moines de Tibérine, assassinés en 1996, seront béatifiés aujourd'hui.
Oui, la cérémonie aura lieu à Oran, et les 7 moines seront béatifiés avec 12 autres religieux tués en Algérie lors de la guerre civile. 19 religieux au total, considérés par l'Église comme des martyrs. Leurs proches font le déplacement en Algérie, en nombre pour l'occasion. Pas moins d'une trentaine de membres de la famille de Chergé, le supérieur des frères de Tibérine, seront présents. Mathilde Imberti les a rencontrés.
Même le frère Jean-Pierre a fait le déplacement. 94 ans aujourd'hui, seul moine de la communauté de Tibérine encore en vie. Il se hissera ce midi avec les familles sur la colline de Santa Cruz, sur les hauteurs de Oran, pour la béatification. La cérémonie n'a de sens qu'ici, soutient Bertrand Chevillard, neveu du père Chevillard assassiné en Kabylie en 94.
Oui, ça n'aurait pas eu de sens, je pense, enfin, en tout cas beaucoup moins de sens de faire ça à Assise, comme ça a été évoqué. C'était vraiment leur pays. D'ailleurs, certains des 19 martyrs avaient la nationalité algérienne.
Une Algérie que les moines de Tibérine ne voulaient pas quitter malgré les menaces, par amitié pour leurs voisins algériens qui venaient se soigner au monastère. Cette amitié qui s'exprime aujourd'hui, comment Hubert de Chergé, frère de Christian, le prieur de Tibérine.
On dit que les moines, ils aimaient le peuple algérien, et je crois que le peuple algérien aimait les moines. Ça n'aurait pas pu tenir si cet amour n'était pas réciproque. C'est la première béatification en terre musulmane qui est placée sous le signe de ces amitiés qu'il y avait, de cette amitié qu'il y avait. Certains amis musulmans sont présents. Il y en a un qui vient justement de Tibérine, qui a connu les moines et qui travaille toujours au jardin.
En Algérie, la guerre civile a fait plus de 150 000 victimes, 19 religieux donc, mais aussi plus de 100 imams. Les familles souhaitent honorer la mémoire de tous.
Un reportage signé Mathilde Imberti pour France Culture. Aux États-Unis, 16 mois après le drame de Charlottesville, le jeune néo-nazi qui avait foncé dans la foule avec sa voiture et tué une personne en blessant une trentaine de contre-manifestants a été reconnu coupable hier de meurtre avec préméditation. Le Téléthon continue jusqu'à ce soir dans toute la France. Cette 32e édition est un peu bousculée en raison de la mobilisation des Gilets jaunes. Mais il s'agira pour ce marathon caritatif de 30 heures de direct de dépasser les 89 millions d'euros récoltés l'an dernier. Car la recherche avance, soutenue par cet engagement populaire. 250 projets, 33 essais thérapeutiques en cours, Bastien Brun.
250 projets, 33 essais thérapeutiques en cours, un laboratoire qui lui est propre, le Téléthon a permis d'accélérer la recherche sur les maladies rares. Laurence Thiénot-Herman, présidente de l'AFM.
C'est en effet beaucoup d'émotions parce que tout ce qu'on a semé pendant ces 30 années de Téléthon, c'est vraiment la récolte aujourd'hui. C'est un vrai virage parce que des thérapies innovantes comme la thérapie génique qu'on a vraiment portée de façon extrêmement importante, puissante, parfois contre vents et marées, on voit la concrétisation. Et en plus, on le voit même sur des maladies neuromusculaires, des myopathies pour lesquelles on se disait que jamais ça marcherait. Et là, ça commence à marcher. Donc c'est vraiment un moment important où on peut dire que vaincre la maladie, c'est enfin possible.
Les avancées concernent même une maladie aussi rare et grave que la myopathie myotubulaire, une faiblesse des muscles qui entraîne la mort d'un enfant sur deux avant l'âge de 2 ans. Anaïs Langlais est la maman de Jules, 2 ans et demi.
C'est un enfant qui ne tient pas sa tête, qui ne tient pas assis, qui ne respire pas seul, qui ne peut pas manger, qui ne peut même pas avaler sa salive. Donc c'est une assistance quotidienne, c'est faire attention 24 heures sur 24. Et là, on arrive dans une phase où on a un espoir. Et peut-être que notre vie, elle va changer de tout au tout.
L'espoir d'Anaïs est un essai clinique de thérapie génique. L'injection d'un gène muté pour remplacer le gène défaillant. Aux États-Unis, 7 enfants ont été traités à ce jour. Ce test devrait arriver en France dans les prochaines semaines.
Bastien Brun pour France Culture. En ce jour de mobilisation nationale des Gilets jaunes, nous faisons un tour rapide au PC Mobilité de Radio France pour prendre un peu la température de la situation actuelle au niveau national. Laurent Borde.
L'A10 est fermée dans les deux sens à cause de ces manifestations entre Lyon et Mâcon par mesure de sécurité. L'A10 fermée en direction de Bordeaux entre Blaye et Saint-André-de-Cubzac et puis en direction de Paris, fermée entre Ambès et Libourne. Il y a aussi de nombreuses manifestations sur l'autoroute A7 entre les échangeurs de Loriol et d'Avignon Sud avec notamment des entrées et sorties fermées à Bolène, Orange Centre et Orange Sud et puis Avignon Nord. L'A54 est aussi fermée dans les deux sens entre Saint-Martin-de-Crau et Salon de Provence. Dans Paris, il est interdit de circuler sur de nombreux axes et bien évidemment aux environs, notamment des Champs-Élysées.
Merci beaucoup Laurent Borde pour ces précisions. Un point météo, un temps dominé par les averses aujourd'hui, du soleil au bord de la Méditerranée. Les températures sont comprises entre 4 et 14 degrés ce matin.